je m'appelle Caroline Muller, je suis chercheuse CNRS au département de géosciences et maître de conférence attachée à l'ENS. Donc au département de géosciences, on s'intéresse à la planète Terre, comme son nom l'indique, de la planète solide aux enveloppes fluides, donc l'océan et l'atmosphère. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la partie atmosphérique et plus précisément les cyclones tropicaux. Alors je vais pas tant répondre à des questions qu'en poser. Mon but aujourd'hui, c'est de vous dire voilà ce qu'on sait, voilà ce qu'on ne sait pas. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à suivre les cours du département de géosciences, qui sont passionnants. Oui, donc j'ai des collaborateurs à NYU et à Berkeley. Donc on va commencer par un travail de définition. D'abord, qu'est-ce qu'un cyclone tropical ? Et ce qu'on appelle la climatologie, c'est-à-dire l'historique des cyclones, leur distribution historique sur les 20 dernières années. Ensuite, on va disséquer ces bêtes et regarder leur anatomie, à quoi ça ressemble à l'intérieur et quel est leur bilan énergétique. Et enfin, on va discuter des recherches actuelles et des questions ouvertes. Donc si ça vous va, on y va. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un cyclone tropical ? Alors on va commencer par cyclone. Qu'est-ce qu'un cyclone ? Cyclonique, ça veut dire qu'il tourne dans le même sens que la Terre. Donc ici, ça veut dire quoi ? Ça veut dire dans l'hémisphère nord, sens anti-horaire, dans l'hémisphère sud, sens horaire. Et donc souvent, on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe quand on passe l'équateur ? Est-ce que la Terre change de sens de rotation ? Donc, je vous rassure, non, elle tourne dans le même sens. C'est la géométrie sphérique qui fait ça, en fait. Donc, je vous ai fait un petit schéma, bon, fait maison, hein, donc c'est pas très... Voilà. Mais j'espère que ça va vous convaincre. Donc la Terre tourne selon les flèches bleues. Maintenant, imaginez que vous êtes le bonhomme dans l'hémisphère nord. On va dire que l'hémisphère nord est au nord, c'est plus facile, au-dessus. Si vous avez un événement cyclonique, donc qui tourne dans le même sens que la Terre, maintenant, regardez votre montre, vous voyez que c'est anti-horaire. Maintenant, passez l'équateur et vous partez dans l'hémisphère sud. Vous regardez ce même événement cyclonique, donc dans le sens robuste par rapport à la Terre, consistant par rapport à la Terre. Vous regardez votre montre, ça devient horaire. Donc c'est purement géométrique. Il n'y a pas de magie quand on passe l'équateur. La Terre tourne toujours dans le même sens. Voilà. Et donc cyclonique, ça veut dire qu'il tourne dans le même sens que la Terre. Maintenant, cyclone tropical, ça veut dire un cyclone qui est d'origine tropicale. Donc la bande tropicale, c'est la bande proche de l'équateur, plus ou moins, disons, 10 degrés de latitude. Un degré, c'est de l'ordre de 100 km, donc plus ou moins 1000 km par rapport à l'équateur. Donc voilà, alors vous avez peut-être entendu, on a dit tout à l'heure, quand Christian a introduit la présentation, on a parlé d'ouragan, vous avez peut-être entendu parler de typhon également. Tout ça, c'est la même chose. Alors, les noms sont historiques, ça dépend du bassin géographique. Mais géophysiquement, c'est le même phénomène, et la dénomination scientifique, c'est cyclone tropical, parce que ça donne une indication sur ce phénomène. C'est un phénomène cyclonique de la bande tropicale. Alors en fait, les noms, comme je vous le disais, dépendent des bassins, donc on va dire ouragan de part et d'autre de l'Amérique, on va dire typhon en Asie du Sud-Est, et dans le reste du globe, on va parler de cyclone tropical. Et vous voyez ici la climatologie, donc, je ne sais pas si vous voyez bien, on voit les trajectoires superposées sur 20 ans, je crois. Et vous pouvez remarquer qu'effectivement, les cyclones tropicaux ne se voient que, ou en tout cas sont d'origine équatoriale proche de l'équateur, dans les tropiques. Donc on voit qu'ils ont leur origine dans la bande tropicale, que je vous ai indiquée ici. En revanche, on ne voit pas très bien les trajectoires, mais ils peuvent finir chez nous, dans les extratropiques. Donc, c'est arrivé l'an dernier, on a eu une saison cyclonique assez intense. Je vous montrerai une illustration de la saison 2017. Et donc, 2017 a été une année intéressante pour les scientifiques, moins pour les gens qui habitent dans les régions touchées. Intéressante parce qu'on a eu énormément de cyclones, d'ouragans notamment. Je vais en mentionner ici quatre. Voilà, vous voyez Harvey, vous ne voyez pas. Ah oui, alors ça c'est une vidéo, je vois quelques-uns du département de géosciences. C'est une vidéo que je montre quasiment dans tous mes cours, ça s'appelle A Year of Weather, c'est en ligne. C'est mis en ligne tous les ans par la NASA, les Japonais et les Européens, donc c'est un effort collectif. Et c'est un composite d'images satellitaires. Vous pouvez le regarder, et si vous allez en ligne sur YouTube, pour ne pas le nommer, vous regardez cette vidéo Year of Weather, vous avez un météorologue qui parle en fond et qui explique un petit peu les différents événements météorologiques du jour, etc. C'est passionnant, vous pouvez passer des week-ends entiers à regarder ça. Donc je vous le conseille, il y a 2017 qui est sorti, il y a 2016, enfin, il y a tout l'historique. Et donc ici, je voulais vous montrer surtout la saison 2017. Donc on a eu Harvey qui a fait des dégâts au Texas. Harvey qui en fait était un cyclone pas très très fort, mais qui allait très lentement et donc il s'est gorgé d'eau sur le golfe du Mexique et il a tout précipité sur le Texas qui a été inondé parce que c'est très proche du niveau de la mer. Et ensuite, on a eu Irma et José qui donnaient un petit peu une idée de le jour d'après, c'est ça, où on a toute une série de cyclones qui suivent les uns les autres. Donc voilà, et je vous invite encore une fois à faire A Year of Weather sur Google pour ne pas le nommer non plus, et vous aurez cette animation. Donc rapidement, c'était une introduction aux cyclones tropicaux. Alors maintenant, à quoi ressemble un cyclone tropical? Quelle est son anatomie? Donc la première idée qui va peut-être vous venir en tête, c'est une grosse masse nuageuse, avec une structure assez spectaculaire évidemment, parce qu'on a l'œil du cyclone, dépourvu de nuages, en tout cas en altitude. Il peut y avoir des nuages bas, mais il n'y a pas de nuages hauts. Et donc on a cette espèce de trou avec une masse nuageuse assez uniforme autour. Donc ça, c'est dans le visible, c'est ce que voit votre œil. Maintenant, si vous aviez des yeux radar, vous verriez qu'en fait, ce n'est pas une masse nuageuse uniforme autour, mais on a des zones préférentielles de précipitation qu'on appelle les bandes spiralées. Donc ça, c'est un cyclone vu dans avec des yeux radar. Vous reconnaissez l'œil sans nuages, avec peu de pluie et des vents faibles, en fait. Souvent, on pense à l'œil comme l'endroit catastrophique. En fait, non, l'œil, c'est une accalmie. Ce qui est catastrophique, c'est quand le mur de l'œil arrive, et pas tant le premier, si on est ici et que le cyclone se déplace, le premier mur va détruire, et le deuxième va prendre tous les débris et les envoyer comme autant de projectiles. Donc, c'est vraiment le passage du mur de l'œil, et notamment le second, qui est problématique. Et donc, le radar, il voit quoi? Il voit la taille des gouttelettes. Et donc, ce que vous voyez ici, ce sont les gouttelettes de taille importante, c'est-à-dire les hydrométéores qui précipitent, la pluie. Et donc on voit qu'on a des bandes spiralées où on a des pluies préférentiellement. Et on retrouve la structure spectaculaire du cyclone avec l'œil entouré d'un mur extrêmement intense. Alors comment est-ce qu'on sait tout ça sur les cyclones en fait? Comment est-ce qu'on a appris tout ça? Alors il y a deux réactions possibles si un cyclone arrive sur vous. La première, c'est d'aller dans un abri anticyclonique, ce que je ferais probablement. Et la deuxième, c'est de sauter dans un avion, ce que font les chasseurs d'ouragans de la NOAA. Et ici, ils ont fait une vidéo quand ils passent. Alors ça, c'est pareil, vous allez sur Internet, vous avez des tonnes de vidéos, peut-être pas des tonnes, vous avez beaucoup de vidéos des chasseurs d'ouragans. Et si, ici, ils passent dans Irma. Donc, je voulais vous montrer ça pour vous donner un petit peu un aperçu. Donc on se rapproche, vous voyez qu'au démarrage, déjà, il faisait assez beau. C'est un trait assez spécifique des cyclones. C'est avant le passage d'un cyclone, il fait beau, parce qu'en fait, le cyclone va absorber toute l'humidité qu'il y a dans l'atmosphère en son cœur. Et à l'extérieur du cyclone, à distance du cyclone, en fait, il ne reste plus grand-chose, donc il fait beau. Voilà. Avant que ça arrive, évidemment. Là, on se rapproche et on commence à voir certaines couvertures nuageuses à étage. Et encore une fois, si vous voulez savoir pourquoi on a des couvertures nuageuses à étage, venez suivre les cours du département de géosciences. Et quand on se rapproche du mur, c'est plus à étage. Maintenant, on a une couverture nuageuse du sol jusqu'au plafond. Donc de la surface, du haut de la couche limite jusqu'à la tropopause. Là, on va se rapprocher d'Irma. Alors, il se trouve que cette vidéo est assez frustrante parce qu'il s'arrête dans le mur de l'œil. Donc là, on le voit, le mur de l'œil. Je ne sais pas si vous le voyez, il est par là. Ça devient beaucoup moins sympathique. Et là, on ne voit plus rien. Ils sont dans les gouttes et dans les gouttes liquides et solides, dans la glace. Et alors, donc, elle est frustrante parce que, oui, elle s'arrête au niveau du mur de l'œil et on n'arrive pas dans l'œil. Donc, j'ai trouvé une autre vidéo. Alors, c'est un autre cyclone. Alors, quelqu'un m'a demandé une fois, mais pourquoi est-ce que ça s'est arrêté? Est-ce qu'ils sont morts? Non, je vous rassure. Hein, c'est juste, je ne sais pas pourquoi, sur YouTube, ils n'ont mis qu'une partie de leur vidéo. Donc, j'ai trouvé un autre cyclone. C'est un autre cyclone, ça n'a pas d'importance puisque la structure est extrêmement similaire d'un cyclone à l'autre. C'est Emily en 2005, qui a été une autre année très destructrice avec Katrina, d'autres ouragans... connus. Et ici, ils arrivent dans l'œil. Alors, la résolution n'est pas terrible, parce que j'ai dû prendre une vidéo de mon écran, je crois. Mais voilà, je voulais vous montrer l'œil, quand même. Cette espèce d'accalmie. Alors, si vous écoutez la vidéo en ligne, vous avez une petite musique avec, un peu sympathique. Et donc, on voit une accalmie. On voit un petit peu les nuages bas, en bas, qui tournent. On les voit tourner, d'ailleurs. Et on voit le mur, l'entonnoir du mur de l'œil. Donc, ça fait un angle, ça fait une sorte d'entonnoir, avec un mur extrêmement abrupt et impressionnant. Qui va encore une fois du sol jusqu'à la tropopause. Dans la tropopause, c'est quelle altitude? Je ne sais pas si quelqu'un sait. Ouais, 10 km, 12 km. Ça dépend de la latitude. Et donc on voit le mur de l'œil avec une couverture et en bas les nuages marins. Ok, et donc qu'est-ce que tout ça nous a appris sur les cyclones? Schématiquement, ça ressemble à ça. Si vous avez une coupe, donc ça c'est un article de review, donc je ne sais pas si vous êtes familier avec la littérature scientifique, peut-être un petit peu. On a différents types d'articles, on a des articles où on publie nos résultats les plus récents. Puis de temps en temps, on se dit, tiens, il y a eu une forte avancée sur tel phénomène géophysique, pendant le cyclone par exemple. Et donc on va faire un article de revue qui va en fait passer en revue tous les résultats des 10-15 dernières années sur un phénomène particulier. L'étape d'après, c'est le livre, une fois que le phénomène est bien débroussaillé. Et donc si c'est un article de revue que je vous conseille, si ça vous intéresse. Et ce qu'on voit, c'est une coupe avec en couleur à droite les vents verticaux et à gauche les vents horizontaux. Donc vents horizontaux, ce sont les vents qui tournent autour de l'œil. Et vous voyez que les vents ce sont les vents qui sont les plus forts, les vents horizontaux, de l'ordre de, alors ça varie selon le cyclone, 200 km/h. Et surtout, ils sont maximum près du sol. C'est pour ça que c'est aussi dévastateur. Donc je ne sais pas si ça vous parle, 200 km/h, mais à un moment j'ai voulu me rendre compte un petit peu de ce que ça représentait. Alors vous connaissez les souffleries, il y en a une à la Villette, les souffleries dans lesquelles on peut faire un peu de chute libre. Vous savez à quelle vitesse vont les vents dans ces souffleries? En moyenne c'est 170 km/h. Donc ça c'est un vent qui peut nous arracher à la gravité. Bon, ça dépend combien vous pesez, hein. Mais en gros c'est un vent qui vous arrache à la gravité. Alors il ne va pas vers le haut, il ne va pas vous faire décoller du sol, mais ça vous pousse, quoi, significativement. Vous, les arbres, tout le reste. Donc c'est pas rien, comme vous le savez probablement, puisque les cyclones tropicaux, on en entend parler. En revanche, les vents verticaux sont pas très forts par rapport aux événements nuageux convectifs qu'on peut rencontrer dans les tropiques, de l'ordre de 8 mètres par seconde. Donc les vents verticaux dans les cyclones ne sont pas très impressionnants. C'est quelque chose qu'un cyclone tropical ne sait pas bien faire, en tout cas c'est pas très impressionnant. Il sait faire d'autres choses, mais... Et alors pour l'équilibre des forces, juste rapidement, en fait un cyclone c'est une basse pression, ça démarre par une basse pression. La basse pression va aspirer l'air en son cœur et en convergeant, le vent va être dévié par la force de Coriolis due à la rotation de la Terre vers la droite dans l'hémisphère nord. Donc le vent est aspiré par vers la droite et on a la force de Coriolis vers la droite du courant, la force de pression vers la basse pression. Et on a également la force centrifuge qui rentre en compte, surtout au niveau du mur de l'œil où la rotation est très très forte. Donc on a un équilibre entre trois forces, pression, Coriolis et centrifuge, c'est ce qu'on appelle le vent du gradient, un équilibre connu en géophysique. Alors maintenant, on a remarqué que les vents étaient maximum près du sol. Alors, vous allez tout de suite me dire, mais comment est-ce que cette machine peut se maintenir face à la friction? Parce que si on a le vent maximum près du sol, la friction va être énorme, donc ça devrait se dissiper rapidement. Comment est-ce que ça traverse l'océan Atlantique? On a vu Irma et José qui partaient de la côte africaine au Cap-Vert et qui arrivaient sur les Caraïbes. Comment est-ce que c'est possible? Mais en fait, le cyclone, il a une source d'énergie qui est essentiellement l'évaporation de l'océan. Et donc c'est ça qui permet de maintenir la structure par rapport à la friction. Et alors plus précisément, en fait, l'évaporation, elle est maximale dans le mur de l'œil. Pourquoi? Parce que c'est là où les vents sont maximum et l'évaporation augmente avec les vents. Vous avez tous remarqué que si vous avez de l'eau sur le bras, vous soufflez, ça s'évapore plus vite. Donc les vents sont très forts dans le mur de l'œil, c'est-à-dire que l'apport énergétique se fait dans l'endroit le plus énergétique. Donc vous donnez aux riches, en fait. Et donc c'est ça qui va renforcer cette structure très spectaculaire du cyclone. L'énergie, l'apport d'énergie se fait dans la région énergétique. C'est une rétroaction positive et donc ça maintient le cyclone face à la friction. Ok, et donc pour finir, quelles sont les questions ouvertes et les recherches? Notamment une question que le grand public ou la presse pose souvent, c'est pourquoi on fait rien? On voit cette chose arriver, on la voit arriver des jours avant, on le sait, on la voit arriver sur la Floride, pourquoi on l'arrête pas? C'est frustrant de voir ça arriver sur Miami quand même, et encore plus sur Haïti, ou des pays qui n'ont pas les moyens de se défendre, et des îles qu'on ne peut pas évacuer facilement. Donc pourquoi est-ce qu'on fait rien? Bah, c'est pas faute d'y avoir pensé, donc on a fait un article entier dans 20 minutes sur l'historique, c'est assez drôle, je vais pas aller trop dans le détail, mais c'est pas faute d'y avoir pensé, on a pensé à plein de choses, je dis 11, pas moi, des chercheurs ont pensé à plein de choses. Donc notamment, on a eu un programme après la Seconde Guerre d'envoyer des gaz carboniques pour modifier un peu la couverture nuageuse. Bon, ça marche pas. Après, on s'est dit, tiens, si on envoyait plus tôt, donc ça a pris quand même 15 ans, de l'iodure d'argent dans l'œil du cyclone avec la même idée de changer la couverture nuageuse. Ça marche pas non plus. Après, il y a une autre idée, alors plutôt des propositions qui n'ont pas été retenues, d'envoyer une bombe nucléaire peut-être dans le cyclone, voir si ça lui fait quelque chose. Et alors, il y en a une aussi, c'est d'envoyer des avions supersoniques. Alors, C'était pas des drones, c'était des avions avec pilote. Donc je ne sais pas qui était parti pour piloter ça. Mais... voilà, des micro-ondes depuis l'espace. Il y a tout un tas d'idées intéressantes. Si ça vous intéresse, j'ai l'article quelque part sur mon ordi. Vous venez me voir au département de géosciences. Et alors, il y en a une autre, il y a une vidéo en ligne, je ne sais pas à quel point c'est sérieux, c'est un espèce d'entonnoir géant qu'on mettrait dans l'océan pour faire remonter les eaux froides. Donc, vous savez que l'océan est plus chaud en surface et plus froid en profondeur. Et l'idée, c'est de faire remonter les eaux abyssales qui sont froides vers la surface, parce que le cyclone, il aime bien l'évaporation qui vient de l'océan. Et plus l'eau est chaude, plus il y a d'évaporation. Si vous lui mettez de l'eau froide, il n'est pas content. Ça va la faire. Donc, il y a eu tout un tas d'idées. Alors, le bilan est implacable, ça ne marche pas. Il faut savoir, donc non seulement c'est parfois dangereux, notamment envoyer une bombe atomique dans un cyclone, mais surtout en fait, un cyclone tropical dépasse notre échelle humaine. C'est un cyclone en pleine maturité, c'est 5 bombes atomiques par seconde. Vous lui en lancez une, ça le chatouille, mais voilà, ça ne va pas l'arrêter. Et de plus, ça pose des questions plus pour Magali, c'est comment est-ce que Cuba va expliquer à Porto Rico qu'il lui a envoyé le cyclone ? Oh, désolé, on visait l'Atlantique en fait. Donc c'est compliqué, une meilleure idée, je pense, c'est d'essayer de parfaire notre connaissance des cyclones. Et d'autant plus qu'un cyclone, on ne le dit jamais assez, un cyclone tropical, c'est utile. Comme tout phénomène géophysique, ça a un rôle dans notre climat. Ça prend le surplus d'énergie qu'a reçu l'océan pendant l'été. Ça l'envoie vers l'atmosphère et les cyclones les transportent vers les moyennes latitudes. Et notamment, nous, ça nous permet d'avoir des hivers plus doux. Donc c'est utile. Donc on va plutôt essayer de mieux comprendre comment ça marche et de parfaire nos prévisions. Il y a toujours des gens qui réfléchissent à des façons d'impacter les cyclones, mais nous, on ne va pas prendre cet angle-là. Donc, quelles sont les questions ouvertes ? Alors, une des questions très importantes pour les cyclones, en fait, on a pas mal amélioré les prévisions des trajectoires ces dernières décennies. En revanche, sur l'intensité, on a encore du travail à faire, à la fois sur la cyclogénèse. Donc, on sait quelles sont les conditions environnementales qui peuvent favoriser la formation d'un cyclone, mais est-ce qu'un cyclone va se former ? Ça reste... assez difficile à prédire. Donc on sait qu'il y a des chances qu'il y en ait un, mais est-ce qu'il y en aura un ? Et l'intensification rapide aussi. Comment est-ce qu'un cyclone passe de catégorie 3 à 5 ? C'est arrivé cette année avec, je crois que c'était Irma ou José, qui est passé de catégorie 3, le soir on s'est couché, il était en 3, le matin on s'est levé, il était en 5. Ça a été prédit par aucun modèle. Donc ça, ce sont des difficultés qu'on a. Alors sur les conditions environnementales, rapidement, qu'est-ce qu'on sait ? On sait qu'il faut des eaux suffisamment chaudes, donc plus chaudes que 26-27 degrés. Je vais m'arrêter deux secondes parce qu'on entend souvent ça dans la presse, 26-27 degrés. Alors, on sait avec le réchauffement climatique que ça va se réchauffer, disons, 2-3 degrés, ça dépend d'ici 50 ans. Donc ça veut dire quoi ? Si ça se réchauffe de 2-3 degrés, ce seuil, on va l'atteindre tout le temps et donc on va avoir une planète recouverte de cyclones. C'est terrible, on va tous mourir. Alors, ce n'est pas une valeur absolue. Okay ? Il faut que ce soit plus chaud par rapport à la moyenne tropicale. Donc, si la moyenne augmente, ce seuil va augmenter de façon consistante. Donc je vous rassure, en fait, ce n'est pas une valeur absolue, c'est une valeur relative par rapport au reste des tropiques. Mais donc il faut que les eaux soient suffisamment chaudes pour qu'il y ait cette évaporation. Il faut un faible cisaillement de vent. Le cisaillement, c'est la différence de vent en altitude et au sol, parce qu'un cisaillement va déplacer la tête du cyclone par rapport à ses pieds, et ça l'empêche d'être efficace. On peut montrer que l'efficacité énergétique du cyclone est optimale quand il est vertical. Et encore une fois, je vous invite à suivre les cours du département de géosciences pour savoir pourquoi. Et il faut une force de Coriolis suffisamment forte. On a vu que ça faisait partie du bilan des forces. Donc il faut une latitude supérieure à 5 degrés. Donc si vous vous rappelez, 1 degré, c'est 100 km. Donc c'est à peu près 500 km. Donc on a ces conditions environnementales. Et maintenant, parfois, malgré des conditions environnementales favorables, on n'a pas dégénérescence de certaines basses pressions en cyclone. Et on ne sait pas pourquoi. Et donc c'est ça qui nous intéresse, nous, particulièrement ici à l'ENS, c'est quelles sont les rétroactions internes, quels sont les phénomènes internes à conditions environnementales égales qui vont faire dégénérer une basse pression en cyclone ou pas. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On utilise à la fois de la physique, de la thermodynamique de l'atmosphère et des simulations haute résolution qui sont assez à la pointe de ce qu'on peut faire. Savoir que pour avoir un cyclone tropical, il faut avoir un domaine suffisamment grand, c'est quand même un gros phénomène, 1000 km. Et pour avoir les phénomènes nuageux, il faut une résolution fine. Donc ce sont des simulations qu'on peut faire depuis une dizaine, une vingtaine d'années, de façon, on va dire, systématique, avec des ensembles, etc. On pouvait en faire une peut-être, voilà, mais on n'avait pas les outils numériques qu'on a actuellement. Et donc on utilise ça, donc je vous ai illustré ça ici avec une simulation que j'ai utilisée dans une étude de cette année, où on voit les nuages en blanc. Ici vous avez, vous voyez pas très bien, mais c'est l'énergie. Donc l'énergie en convection humide, c'est l'énergie statique humide. Je vous dis pas ce que c'est, j'espère que vous avez envie de savoir, venez suivre les cours du département de géosciences. Et donc ici vous avez l'air qui a la plus haute énergie, qui est proche du mur, je sais pas si vous voyez, c'est plus rouge. Et en fait cet air est aspiré dans le mur, monte au niveau du mur, on a vu que ça montait dans le mur. Et il est éjecté en haute altitude. Et c'est une des conséquences des cyclones tropicaux, ou un des effets, c'est de transporter l'énergie du sol vers la haute atmosphère. Et donc ce genre de simulation nous permet d'aller à conditions environnementales égales, en conditions idéalisées, d'aller au cœur des processus, de voir qu'est-ce qui est important ou pas dans la naissance du cyclone. Voilà, je ne vous en dirai pas plus, j'espère que je vous ai au moins intrigué. N'hésitez pas à venir me parler de ça. Je voudrais juste finir sur une petite note philosophique, si j'ai une minute. Je voudrais revenir à ce cyclone qui a fini à nos latitudes. Ah oui, je ne vous ai pas dit ce qu'on regardait. Donc ici, on regarde, c'est toujours la saison 2017, et on a les aérosols atmosphériques en couleur. Donc en bleu, ce sont les sels marins. Vous avez la fumée en blanc, donc il y a des incendies au Portugal à un moment, et la poussière en jaune, notamment la poussière saharienne qu'on voit bien. Et voilà, c'est Ophélia qui a fini chez nous, qui a fait un mort en Irlande. Et donc Ophélia, il est particulier parce qu'au lieu d'aller vers les Caraïbes, il est remonté vers nous. Et à ce moment, il y avait des feux au Portugal et beaucoup de sable saharien, et ça nous a tout envoyé sur la côte. Et il y a eu des photos qui ont été prises dans l'ouest de la France, et voilà à quoi ressemblait le ciel. C'est juste pour rappeler que si le phénomène est tropical, le climat c'est quelque chose de global, et ce qui se passe dans les tropiques ne reste pas toujours dans les tropiques. Voilà, je vais vous laisser là-dessus.